Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Citoyens et citoyennes de l'ensemble du pays, bienvenue à l'émission « Peut contenir des infos ».
L'ensemble.
L'ensemble du pays. Je ne laisse personne, mais alors là, personne de côté.
D'un océan
à l'autre, à l'autre.
À l'autre.
Exactement.
Les trois.
Les trois. Trêve de plaisanterie, mon cher ami. Tu veux que je commence ou tu veux commencer?
Je peux te lancer, mon cher ami.
Ah ben vas-y.
T'es-tu un pêcheur?
Un pêcheur? J'ai déjà taquiné les poissons.
Oh, ta blonde m'a dit que t'étais vraiment un pêcheur. Ah non, c'est une autre affaire, ça.
Pas pêcheur.
Non, ok, c'est ça.
Pêcheur, pas l'accent grave.
Non,
ou l'accent...
Non, c'est ça.
Toi, c'est l'accent circonflexe.
Oui, c'est okay. L'accent circonflexe.
Ok.
Ok. Le problème quand on va à la pêche, mettons dans un endroit qu'on ne connaît pas.
Oui.
Tu prends un poisson, c'est ça, cette affaire-là. Tu connais pas toujours le poisson, tu le reconnais pas toujours.
Ben particulièrement si t'es dans un autre endroit que celui auquel t'es habitué.
C'est ça, tu sais, si tu vas toujours dans la même rivière, que tu vas toujours à la pêche à la truite à la rivière, ben là,
commences à connaître les.
Tu commences à connaître ce qu'a de l'air.
Les espèces là.
Le ministère, je trouvais ça tellement génial, de l'environnement, de la faune et des parcs du Québec, a développé l'application e-pêche. Ou iPêche.
OK.
iPêche. C'est une application pour identifier son poisson. Simple comme bonjour. Tu prends une photo avec ton poisson dans ta main et l'application va prendre entre 10 et 12 secondes la première fois
okay.
pour identifier ton poisson et 95% des réponses, c'est exactement ça.
Ben, remarque qu'ils réinventent pas la roue, là.
Non, mais répertorier, là, 125 espèces, parce qu'il y a 125 espèces qu'ils ont répertoriées au Québec. Mm. Avec, ils ont mis dans l'application 38 000 photos.
OK, oui, c'est ça.
C'est ça l'affaire, parce que c'est l'intelligence artificielle, dans le fond, qui fait qu'on va reconnaître le poisson
mm-hmm.
avec ses lèvres et ses gros yeux. Et fait que c'est ça, tu sais, ça en a pris des photos là pour essayer de répertorier 125 espèces.
Ouais, il faut que tu vois les nageoires dorsales, ventrales s'il y en a, il y a la queue, la forme, les trucs du genre. Ouais, absolument.
Ministère des Pêches du Canada, ce serait pas une mauvaise idée de le faire pour l'entièreté de
pays. Ouais, mais remarquez qu'il y a certaines de ces espèces de poissons-là qui doivent certainement se retrouver en Ontario, par exemple, ou encore dans les rivières du Nouveau-Brunswick. Là.
Oui, absolument. Là, je veux dire, c'est, tu sais, un saumon, c'est un saumon, là.
Ben, c'est pas nécessairement partout des vases communicants, mais il y a certainement des étendues d'eau là qui sont assez communs d'un endroit à l'autre. Mais quand je disais tantôt là qu'ils ont pas réinventé la roue, là, c'est le genre de principe qui existe pour d'autres. Je sais pas si c'est cette information là. Il y a par exemple des applications pour identifier des champignons ou pour identifier des plantes, des trucs du genre.
C'est le même principe. Là, tu prends une photo, puis ils vont te l'identifier. Alors, mais c'est juste que pour la pêche, j'ai trouvé ça le fun.
Hein? Et le nom iPêche,
oui, iPêche.
Moi, j'aime mieux en français iPêche.
Ouais,
ça me fait très canadien français là. Qu'est-ce qu'il fait là le gars? Le gars iPêche.
iPêche. C'est ça, exactement. Ben c'est exactement ça. L'application va être gratuite. Elle devrait être disponible pour la saison de la pêche cette année. J'ai bien hâte. Moi, je vais l'essayer. Honnêtement, moi, je vais l'essayer parce que je trouve ça vraiment plaisant, là. Alors, tout le monde va pouvoir la télécharger.
Mm-hmm.
Ce sera pas nécessairement juste les gens du Québec qui vont pouvoir la télécharger. Okay. Elle va être disponible at large.
T'es un pêcheur, toi, je savais pas ça.
Pas dans les dernières années, mais dans ma vieille vie, là.
Okay.
Oui. Moi, j'ai toujours adoré la pêche. Je trouve ça tellement calmant, là.
Ouais,
juste d'aller m'asseoir sur une roche puis pêcher dans une rivière là ou mettre mes grands bottes puis rentrer dans la rivière. Je sais pas ça
m'amène. T'as l'air d'un Tom Sawyer toi.
Ça m'amène complètement
ailleurs. Canne à pêche au bout du quai en train
tellement.
Petit chapeau de paille.
Ouais, oui, c'est ça, oui.
C'est un peu ça.
C'est un peu moi ça. Et tu sais qu'il y a des gens quand ils vont à la pêche,
oui.
Ben ils vont s'emmener une petite frette, hein.
OK.
Les deux vont un peu de pair.
C'est pas indissociable, mais mettons que ça va bien ensemble.
Oh oui, ça va relativement bien ensemble, là, le houblon et l'eau, là, tu sais. Hein? Houblon et l'eau.
Oui.
C'est ça qui fait
la bière. Et pour peu qu'on consomme pas, par exemple, dans l'embarcation.
Exactement.
Soyez prudent.
Oui, oui, oui. Non, on parle pas de dans l'embarcation, mais je veux dire le soir, en arrivant
après,
au chalet.
Après, quand on est en train de faire les filets, là, ouais, c'est ça, là.
Exactement. Il y a, mon cher ami, une façon qui va être encore beaucoup plus simple d'en amener quand on va partir en voyage de pêche.
OK.
Première mondiale, mon ami. L'invention de la brasserie de l'abbé de Neuzel, qui
Europe.
A sorti une bière.
OK.
Écoute bien ça. En poudre.
La bière en poudre.
La bière en poudre. Tout ce que t'amènes, c'est ton enveloppe. Mets ça dans ton verre et tu rajoutes de l'eau. Mais pour le moment, la bière est sans alcool. Mais ils veulent
faire une version alcoolisée.
Oui, oui, oui. Ils vont arriver. C'est un petit peu plus compliqué. Mais ils vont réussir à faire une version alcoolisée.
Pas avec de l'alcool à friction, là, toujours?
Ben là, c'est pas un canon, là.
Mais... OK. Mais il y a du lait en poudre, fait pourquoi pas?
Ben, t'sais? Pourquoi pas?
Ouais. OK.
Tu sais, il y avait du jus d'orange en poudre, du Tang, là.
Ouais.
C'était-tu du jus d'orange,
ça? On sait ce que ça donne aussi. Hein.
Ça enlève pas à rouille, ça?
Ça, tu peux mettre ça dans le lave-vaisselle quand tu veux nettoyer ton lave-vaisselle, changer l'odeur de ton lave-vaisselle, là, puis lui redonner un peu son pep, là.
Ouais.
Exactement.
Toi, tu nous amènes où?
Ben, savais-tu qu'un logo, ça peut faire crier bien du monde?
Ça peut faire crier du monde?
Ben, crier. Mettons, chialer, on va dire.
Ah, oui. Tout à fait.
Pour vous dire comment ça prend pas grand-chose aujourd'hui pour susciter l'indignation et les critiques chez les gens, la ville de New York a procédé, très très récemment, à une révision de son célèbre logo, logo pas officiel, mais logo officieux, on va dire, le I Love New York.
Oui.
Tu sais, le I, la
c'est
lettre
ça.
I, je, là, avec un cœur, puis NY, là, au bout, là. Ils ont changé ça, puis ça fait pas l'affaire de tout le monde.
Mais pourquoi ils ont changé? Il était correct, ce logo-là?
Ouais, mais écoute ça. C'est parce que récemment, on a lancé ou présenté une version rafraîchie de cet emblème qui, comme je le disais, n'est pas officiel, mais qui est quand même très connu. Ça date de 1977. C'est Milton Glaser, un typographe et graphiste new-yorkais décédé en 2020, qui avait créé ça. Et là, on en a fait une nouvelle version. Oui, Love NYC. Oui, nous, aimons. We love New York City. Et l'affaire, c'est que, d'une part, la police de caractère qu'on utilise s'éloigne énormément de ce qu'il y avait jadis dans le I love New York. On a rajouté un cœur qui a l'air d'une émoticône, tu sais, les emojis qu'on voit sur Internet. Ça fait très 2023, là. Ça fait pas 1977. Et ce logo-là devrait apparaître en principe dans des publicités qui vont mettre en vedette le maire de New York, la gouverneure de l'État et une association à but non lucratif pour que les gens, après la pandémie qu'on a vécue, se réapproprient leur ville, retrouvent leur fierté de New York et attirer des touristes et tout ça. L'objectif, donc, c'était en même temps d'aplanir un petit peu les différends entre les gens en faisant quelque chose de rassembleur, en enlevant le « je », le « I », en mettant le « oui ». Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va faire une campagne, on va inviter les gens à participer à des corvées de nettoyage, des parties, visiter leurs commerces et locaux et tout ça. Mais le nouveau logo fait pas l'affaire de tout le monde, comme je le disais, dont, entre autres, nul autre que le vice-président exécutif au design chez Adobe. Tu connais Adobe?
Oui.
Qui est quand même... Alors, Scott Belsky, lui, dit du nouveau logo que tout ce qui pourrait le rendre emblématique et intemporel... Il y a rien de ça là-dedans, là. Si vous voulez avoir de quoi qui a l'air de 2023 puis qui va durer 6 mois, là.
Ah ouais, qui va rester en 2023.
Qui va rester en 2023, ouais. C'est ça. Et c'est un peu ce contre quoi s'objectent les gens, des designers, du monde, la population en général, tout ça. Ils ont dit, OK, mais c'était quoi l'idée? Pourquoi avoir changé un logo pour une campagne publicitaire, tout simplement, alors qu'on en a un qui existe, qui est très connu, qui aurait tout simplement pu, je sais pas, adapter, c'était juste... Alors, c'est ça. Ce logo-là va n'être utilisé que pendant quelques semaines ou quelques mois. Non, sérieusement, ils ont fait faire ça. Je sais pas comment ça a coûté, là. Et
après ça, ils vont le remiser.
Après ça, on va le tasser, tout simplement.
Oui.
C'est bizarre de même, hein? Écoutez, juste pour consoler les gens qui sont très, très paniqués, là, à l'idée de voir ce nouveau logo-là, d'une part, ça a pas été fait... sur un coin de comptoir. Il y a quand même eu plusieurs soumissions qui ont été faites. On a retenu 11 finalistes. C'est vous dire, on a pris le moins pire de la gang. C'est quand même. Et la notion, en fait, cette notion, cette version, devrais-je dire, de le We Love New York City, c'était une espèce de clin d'œil qu'on voulait faire, tout simplement. Là, les gens, l'équipe de design ou l'équipe qui est en arrière de tout ça, dit comme paniquez pas, là, paniquez pas. Et juste pour conclure avec ça, je peux vous dire que, et si ça peut rassurer encore davantage les gens, Milton Glaser lui-même, qui avait créé le fameux I Love New York, oui, avait dessiné ça à l'époque, je pense qu'il était dans un taxi, ça lui était venu comme ça sur un coup de tête. Il avait déjà fait une reformulation de son propre logo. Après les attentats du World Trade Center, il avait déjà refait le... Mais lui, c'était I Love New York More Than Ever. Il avait gardé tout le kit, là, la même police de caractère, le même I Love New York, mais il avait juste rajouté un petit More Than Ever. Donc, tout ça pour dire que si lui l'a déjà transformé un petit peu... Ruez pas trop dans les brancards.
Non, c'est ça.
C'est correct, là. Ça va juste passer. Ça va durer une couple de mois. Vous verrez pas trop, trop longtemps.
Puis le I Love New York, là, si je ne me trompe pas, a été utilisé partout à travers l'État de New York.
Partout à travers l'État de New York et même bien au-delà des frontières, on le voit dans...
C'est ça, parce que ça avait commencé dans la ville de New York.
Oui.
Mais après ça, l'État au complet s'en était approprié.
Ça fait que le We Love New York City qu'on voit là...
Là, c'est vraiment la ville.
C'est vraiment la ville de New York. On veut que les gens se réapproprient et retrouvent leur fierté, si on peut dire.
Mm-hmm.
On s'arrête pour une courte pause et nous revenons dans un instant. Nous sommes avec vous dans l'émission « Peut contenir des infos ». Ben, restez avec nous autres parce qu'on vient.
Cette émission peut contenir des infos.
Le 26 mars dernier, c'était la journée lavande au Canada. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une journée qui a pour objectif d'appuyer les personnes atteintes d'épilepsie et sensibiliser la population par rapport à leurs conditions.
Pour l'occasion, le journaliste Maxime Gauthier du FM 90 route 17 au Nouveau-Brunswick s'est entretenu avec la docteure Roxane Savoie qui va nous présenter ce trouble neurologique et qui s'ouvre aussi sur sa propre expérience envers l'épilepsie puisque elle-même, elle est atteinte de cette maladie.
D'abord, merci infiniment de t'être déplacé ce matin pour discuter de ce trouble neurologique peu connu ici et même ailleurs au Canada, mais qui touche tout de même un Canadien sur 100. Pour commencer, tu dois toi-même composer avec l'épilepsie. Comment est-ce que ça t'affecte dans ton quotidien?
Dans le fond, c'est certain qu'en tant qu'épileptique, il y a des choses que tu peux pas faire que tu faisais avant. T'sais, beaucoup de choses qu'il faut que tu réalises que ta vie va être différente. Comme par exemple, de juste le fait d'être seul, d'aller en voyage seul, de dire « Ok, ben, si je suis seul, puis j'en fais une, qui va être là? Qu'est-ce qui va se passer? » Parce que moi, quand je fais une crise d'épilepsie, par exemple, je perds conscience. Je fais des mouvements tonico-cloniques qui appellent... Je fais la classique, là, la classique qu'on voit dans les films, là, OK? Je perds conscience, je me mets à avoir des secousses. Fait que tu dis, je suis inconsciente, je sais pas ce qui se passe alentour de moi, je perds une partie de un des instants de ma vie que j'aurai jamais. Fait que c'est juste de te retrouver seule dans certaines situations. Aussi, quand tu vois plus loin que ça, mettons, dans tes relations, dans ton couple, les gens peuvent vivre de l'anxiété aussi à savoir, OK, est-ce qu'elle est bien quand elle est seule? Puis ça peut créer comme de l'anxiété puis de la surprotection aussi. Puis c'est sûr qu'au quotidien, à cause justement des effets secondaires des médicaments, parce que ça, faut en tenir compte, tu sais, l'épilepsie, c'est pas juste « OK, je fais une crise, on passe à d'autres choses ». Tu sais, on est médicamenté, puis souvent, ça affecte la mémoire. Ça peut donner des troubles de concentration. Des fois, je peux avoir, ils appellent ça comme un « brain fog », un peu comme si t'étais dans la brume, là, dans l'une, là. Puis souvent, ben les gens qui vivent avec de l'épilepsie, tu peux avoir des journées que t'es très fatigué. Tu peux avoir des fois des maux de tête parce que t'as trop eu de stimulation. Puis c'est sûr que on est dans une société où est-ce que la productivité est vraiment valorisée. Donc d'avoir à écouter ton corps puis à faire exactement, mettons, ce que le médecin dit, d'avoir des bonnes habitudes de vie, ça peut venir difficile, ça peut venir aussi une frustration. Tu te sens un peu inférieur, mais dans le fond, c'est juste que t'es différent puis il faut juste que t'écoutes ce que ton corps te dit. Parce que moi, quand j'écoute pas mon corps, quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, c'est comme ça qu'il répond. Dans ma vie, ça m'a quand même appris à m'écouter parce que je le faisais pas, clairement. Puis aussi, c'est certain que avec une crise épileptique vient la perte du permis de conduire, ce qui était probablement la chose la plus difficile. C'est ton autonomie à la fin de la journée qui en est cause. Moi, j'ai été diagnostiquée d'épileptique en 2020, mais ma première crise remonte en 2018.
Donc, c'est récent, là.
Ouais.
Relativement récent.
Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ma première crise, à ce moment-là, j'étais en médecine. Puis, dans ces temps-là, c'est des stages où est-ce que t'es un peu partout. J'étais à Sherbrooke, je devais être à Moncton dans l'espace de 2 jours. On faisait des rotations, c'était quand même long. On dormait pas beaucoup, beaucoup de stress. Donc, la première, j'étais de retour à Moncton, j'étais à l'épicerie, boum, je me réveille dans une ambulance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça?
Okay.
Là, après, j'ai vu un médecin, puis il y avait des gens sur la scène qu'ils ont parlé aux ambulanciers, puis j'ai eu une convulsion. Ça, c'était ma première épisode. J'ai vu un neurologue, le neurologue m'a dit, écoute, il y a des gens, je pense que comme autour du monde, il peut y avoir 1 personne sur 10 qui peut en faire une dans sa vie. Fait qu'ils m'ont dit, ben peut-être que tu fais partie des gens-là. Fait qu'écoute, on va juste attendre, fais attention, aie des bonnes habitudes de vie, puis écoute.
Comme quoi, ça pourrait être passager, tout simplement.
Ouais, absolument. Il y a des gens qui peuvent en faire, sur beaucoup de stress, des fois l'intoxication à l'alcool, admettons, ou d'avoir fait de la fièvre, une grosse infection, tu peux faire une convulsion sans nécessairement être épileptique plus tard. Mais moi, ma deuxième, je l'ai fait en 2020. Puis ça aussi, c'était pendant que j'étais dans ma résidence. Je graduais presque de ma médecine. Encore une fois, je faisais des rotations à ce moment-là, c'était en obstétrique. Puis on faisait aussi des longues heures. Puis à un moment donné, j'étais à l'hôpital Georges-Jumont. Puis j'étais avec une patiente, puis je me suis effondrée au sol, puis j'ai fait ma deuxième convulsion. Celle-là, je crois qu'elle a duré 4 minutes. Puis je me suis réveillée à l'urgence, à Georges-Jumont, où est-ce que je connaissais les gens que je travaillais avec. Puis là, je savais que c'était « OK, c'est une convulsion ». Puis là, j'ai revu le neurologue, puis à ce moment-là, il dit « Non, Roxane, t'es épileptique. Là, on doit te débuter des médicaments, puis écoute, c'est ça ta nouvelle réalité, et je t'enlève ton permis de conduire, tu sais, pour 6 mois. Fait que ça, ça a été très difficile, parce que quand t'es un adulte, que t'as des responsabilités, que tu dois te rendre au travail le matin, faire ton épicerie, faire tes choses de la vie quotidienne, là, t'as besoin de dépendre des gens. Puis tu peux pas... Tu te sens pris, là. T'es chez vous, t'es pris, tu peux pas sortir, tu dois demander pour aller chercher juste du pain pis du lait à l'épicerie, faut que tu demandes à quelqu'un. Tu sais, je filais comme un enfant avec des responsabilités d'adulte. Fait que je crois que ça a été vraiment, vraiment difficile. Tu sais, on se le cachera pas qu'à un moment donné, il y a aussi l'aspect de santé mentale, parce que quand tu perds ton autonomie, tu te sens beaucoup plus isolé, ben, certaines personnes peuvent se sentir plus anxieuses, un peu plus déprimées, pis je crois que c'est juste normal aussi. Fait que je me suis quand même adaptée, j'ai pris une petite période de repos parce qu'écoute, quand on fait des crises comme ça, on a besoin de peut-être de se recentrer. Puis j'ai continué, j'ai essayé d'adapter ma vie, j'ai eu mes permis de conduire de nouveau. Puis tu sais, écoute, la vie continue. La troisième, elle remonte à juste 6 mois.
Ah, oh, vraiment?
Ouais, je l'ai fait en septembre. Je l'ai fait cette fois-ci en dehors du pays, dans un aéroport. Puis encore là, tu sais, d'où que je parlais des voyages tantôt, j'ai été chanceuse parce que mon conjoint est avec moi cette fois-là. J'y avais quelqu'un avec moi, tu sais. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, ben, t'aurais pu te retrouver seule, t'aurais pu te retrouver dans un hôpital à l'étranger, puis il y aurait eu personne que t'aurais connu, là. J'ai eu comme, OK, je suis encore épileptique, là. C'est vrai, là.
Mais qu'est-ce qui déclencherait ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche ça?
Ouais, absolument. Chez différentes personnes, les facteurs déclencheurs sont quand même différents, mais ce qu'on remarque, en règle générale, souvent on parle de fatigue, manque de sommeil, un stress intense. Chez les femmes, ça peut même être en lien avec, mettons, les cycles hormonaux, la consommation d'alcool, caféine, nicotine. Puis, ça peut dépendre des gens. Il y en a certains aussi qui sont photosensibles, là, les lumières clignotantes. Mais ça, je te dirais, c'est à peu près juste 5% de la population. Moi, depuis ma deuxième crise, j'ai pas consommé d'alcool, j'ai pas consommé de café non plus. Donc, essentiellement, à ma troisième, on a dit, ben, c'est clairement sur de l'épuisement, un manque de sommeil. Puis, en étant dans un autre pays, ben, il y avait le décalage horaire puis le stress du retour. Fait que je pense que c'était juste comme un cocktail explosif avec la, les semaines d'avant que t'as travaillé beaucoup. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, on retourne à la perte de permis de conduire pendant 6 mois. Je viens juste de l'avoir, je crois que ça fait 3 semaines.
Donc, tu viens tout juste de l'avoir tes permis après une deuxième suspension. Sachant qu'une crise peut arriver n'importe quand, pour l'avenir, tu dois certainement avoir une crainte, là.
Ouais, absolument. Tu sais, on se dit dans la vie, faut pas qu'on s'empêche de vivre pour une maladie. Puis ça aussi, c'est pour les gens qui ont une maladie chronique, la vie continue. Cependant, moi, je me dis, faut pas le faire de façon irresponsable non plus. Tu sais, là, ça me conscientise, OK, je mets mes limites. Je dois avoir un mode de vie sain, j'ai pas le choix. Je dois dormir, je dois prendre du temps pour moi de me reposer. Puis c'est certain que quand tu prends ta voiture, quand tu vas au travail, quand tu te retrouves à des endroits où est-ce que t'es seul, tu vas avoir cette espèce de petit flash en arrière de la tête à dire, ouais, mais qu'est-ce qui arriverait si j'en fais ici, là? Aussi fou de dire d'aller te baigner ou de prendre un bain. Tu peux faire une crise d'épilepsie en étant dans ton bain puis te noyer, tu sais, c'est aussi fou que ça. Mais je pense que même si que j'avance, puis même si que j'ai appris à vivre avec, à l'accepter, puis à quand même être résiliente, je l'ai toujours quand même en arrière de la tête, là. J'y pense toujours un peu qu'est-ce qui pourrait arriver. Puis quand je planifie des choses, admettons, planifier un autre voyage, ben c'est de penser, OK, d'être avec quelqu'un, d'avoir des assurances, puis de pas me mettre dans des situations qui pourraient être dangereuses, mettons, là.
OK. Très intéressant ce dont tu nous fais part aujourd'hui, Roxane. Et on fait une pierre deux coups ce matin. On discute avec quelqu'un qui est atteint d'épilepsie. Et cette même personne est aussi une professionnelle de la santé. Alors dis-moi, Roxane, j'écoute tes propos et je me demande, est-ce que ce trouble neurologique-là peut être mortel?
Absolument. C'est certain, comme on parle, si tu fais une crise d'épilepsie quand t'es dans une situation dangereuse, ben évidemment, tu peux mourir des blessures.
C'est ça, comme le bain, comme...
Ouais, exactement. Puis, il existe aussi il peut y avoir aussi des morts subites qui peuvent arriver. On peut pas vraiment expliquer, mais il y a eu des cas de personnes qui sont retrouvées sans vie, puis peuvent pas expliquer pourquoi. Fait que c'est certain que ça peut quand même être...
Ça peut amener vers... Ouais. Faut être prudent.
Ouais, absolument. Absolument.
Est-ce que ça peut se guérir?
L'épilepsie, dans le moment, il n'y a pas de traitement curatif. Essentiellement, on essaie de contrôler les convulsions avec des médicaments. Moi, pour ma part, j'ai quand même été... je me considère quand même bien, bien contrôlée malgré tout. Mais parce que j'en ai fait aux 2 ans. Mais il y a des gens qui vivent au quotidien avec plusieurs crises par jour. Donc, ces gens-là, des fois, ils sont sur 2-3 médicaments. Ils ont eu des échecs au traitement. Il y en a même qui se rendent à avoir des chirurgies pour des implants pour tenter de contrôler les convulsions. Mais il y a des gens que, pendant toute leur vie, ils réussissent jamais à avoir un contrôle. Ils peuvent en faire plusieurs fois par jour. Puis, tu sais, ou des gens... comme moi, qui peuvent en avoir plus rarement, puis être capable d'avoir une qualité de vie, d'avoir un travail, puis une vie régulière, si je peux dire ça comme ça.
Les gens connaissent le mot, connaissent l'épilepsie, s'imaginent quelqu'un en convulsion, oui. Un peu comme tu as parlé tantôt,
oui.
Mais il y a d'autres symptômes, c'est plus large que ça, là.
Absolument, c'est pas juste la convulsion classique comme qu'on voit dans les films, là, tu sais. Il y a les généralisés, parce que dans le fond, l'épilepsie, c'est des décharges électrique anormal dans le cerveau. Puis des fois, c'est généralisé, ce qui veut dire que c'est tout le cerveau au complet, et d'autres fois, c'est juste partiel, c'est juste une partie du cerveau que l'électricité est altérée. Les généralisés, c'est un peu la classique qu'on voit, mais c'est aussi des absences. Des absences, c'est un peu que la personne a le regard fixe, le regard vide. On la perd pour quelques secondes. Ça, souvent, c'est plus chez les enfants. Fait que des enfants qui peuvent avoir des problèmes d'attention à l'école, peut-être qu'il y a des absences sous-jacentes. Fait que des fois, ça fait des enfants que à l'école, ils ont l'air un peu pas écoutés, mais des problèmes d'apprentissage, mais dans le fond, ça peut être une épilepsie.
Mais là, il faut pas confondre une personne lunatique.
Non,
parce que,
absolument.
Là, je me rappelle, moi, quand j'étais petit, souvent dans la lune, mais j'étais pas épileptique, là.
Non, c'est ça, parce que vraiment, un enfant qui fait des absences, aucun contact avec la réalité, c'est des secondes de sa vie, un peu comme que je disais que tu perds. Tu as même pas réalisé que t'étais dans une période que t'étais pas en contact avec la réalité, là. Mais dans les partiels, par exemple, ça peut affecter une partie de ton corps d'avoir, mettons, comme juste une secousse. Les gens qui en font des partiels peuvent même être conscients. Fait que le spectre de l'épilepsie est très large, puis les manifestations peuvent être très différentes, justement, en fonction de la partie de ton cerveau. Puis des fois même les partiels peuvent devenir généralisés aussi un peu là. Puis je veux dire, il y en a qui en font juste la nuit aussi. Fait que c'est très 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 variable. Fait qu'il y a beaucoup un peu d'incompréhension justement. Je te dirais probablement chez les gens qui en ont des plus atypiques. Que ce qu'on voit classiquement, mettons.
Mm-hmm. Et pour les familles qui ont un membre atteint de ce trouble et pour une personne atteinte elle-même d'épilepsie, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
De pas hésiter à en parler. De pas vivre dans cette espèce de...
solitude.
Ouais! Ouais, cette solitude-là, il existe des groupes de sport, d'en parler avec des gens, puis c'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est de sensibiliser, puis peut-être que ma voix va toucher des familles, puis qu'ils seront plus à l'aise d'en parler ouvertement.
Merci, Roxane, d'avoir partagé ta propre expérience avec cette maladie, et au plaisir de se reparler.
Merci à toi.
Avertissement. Cette émission peut contenir des infos.
Simon, le printemps est enfin arrivé.
Oui, il commence à être temps, là.
Oui, on commence à penser au ménage du printemps, faire le ménage aussi de notre voiture, mais on oublie souvent de prendre soin de notre véhicule. Pourtant, on devrait le préparer pour l'été. Avec des entretiens préventifs.
Entre autres choses. Et on va recevoir donc cette semaine à l'émission le gars de char, évidemment, celui qu'on a eu l'occasion de recevoir à quelques occasions depuis le début de l'émission, Marc Bouchard, qui va nous parler de ce qu'on doit faire et aussi de ses récents essais de nouveaux véhicules.
Salut Marc!
Salut à vous deux!
Bienvenue à l'émission encore. Marc, on s'est pas parlé depuis le mois de janvier à peu près. J'imagine que pendant ce temps-là, tu as eu l'occasion d'essayer quelques voitures qui t'ont plu ou non. On pourrait peut-être débuter avec les Kia EV6 GT et la belle Subaru Solterra que j'aime bien. Et tu pourrais aussi nous parler de ce qu'est le fameux piton vert sur la Solterra.
Ah, c'est pas sur la Solterra, ça, c'est sur la Kia EV6.
Ah, c'est sur la EV6, le piton vert.
Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que la Kia EV6 GT, c'est dans le fond l'interprétation sur les stéroïdes de la Kia EV6 traditionnelle.
OK.
Donc on a sensiblement, ben en fait, on a toujours la même plateforme du côté des Coréens là, la fameuse plateforme EGMP, donc une plateforme où les batteries sont placées bien sûr dans le plancher, une plateforme qui est montée sur une architecture de 800 volts. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est une technologie qui est assez avant-gardiste puisqu'il y a Porsche et Audi qui utilisent ça autrement.
Okay.
Ça permet donc une recharge beaucoup plus rapide en fait. Donc on peut aller sur des bornes de recharge comme de 350 kW alors que les autres ne peuvent pas aller au-delà de 200 la plupart du temps. Donc c'est un avantage. Et bon, tout ça pour dire qu'on a la même batterie, 77,4 kWh, on a le même moteur à peu près. La différence, c'est qu'on a un petit peu pimpé le moteur, si vous me prêtez l'expression, et on est rendu à 576 chevaux.
Pouf!
Qui est contre le 320 normal. Alors, ça vous donne une idée là qu'on est presque du simple au double. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que la EV6 avait, dès le départ, un format beaucoup plus sportif, une rigidité assez grande pour se permettre de supporter ça. On a bien entendu modifié les suspensions, modifié certains éléments aérodynamiques, notamment au niveau des pare-chocs. On a aussi modifié, bien entendu, les freins, parce que plus on va vite, plus on a besoin de freins solides. Et ce que les gens savent pas, et c'est drôle, petite parenthèse, peu importe le type de voiture que vous avez, le système le plus puissant sur votre véhicule, ce sont vos freins. C'est pas le moteur.
Hmm. Wow. OK.
Parce que le moteur va vous mener de 0 à 100 dans un certain temps, mais vous souhaitez que les freins le fassent plus rapidement quand vous ralentissez.
C'est vrai, hein?
Effectivement, oui.
Alors, les freins, donc, ont été grossis sur la Kia EV6 GT. Et il y a le fameux bouton vert. Et là, anecdote un peu innocente de ma part, j'étais sous l'impression que le petit bouton vert servait simplement à changer de mode. Parce que vous savez que dans la plupart des véhicules, surtout véhicules électriques, il y a plusieurs modes de conduite, là. C'est un mode plus sport, un mode plus ordinaire, un mode éco et tout ça. Alors, je me disais, c'est strictement pour changer de mode. Ce qui n'est pas faux, en fait. Il t'amène effectivement en mode GT, mais il te donne aussi un petit boost. Ce qui est agréable quand on le sait. Quand, comme moi, on n'a pas vraiment porté attention aux instructions avant de partir, j'étais sur autoroute et je roulais à vitesse tolérée, disons, sur autoroute, pour ne pas dire 118 km/h. Et j'ai décidé d'appuyer sur le bouton en me disant ça va rigidifier un peu le sou. Mais il y a eu un petit boost. J'ai vu la voiture devant moi approcher beaucoup plus rapidement que mon cœur ne l'espérait. Bon, finalement, heureusement, il y avait des bons freins, là. Mais effectivement, donc, j'ai donc appris à maîtriser le célèbre petit bouton vert. Okay. Maintenant, je sais à quoi il sert.
J'imagine la face du gars dans le véhicule, dans l'avant, qui voit ça qu'il voit arriver. Puis là, après ça, tu lui expliques, tu dis, non, c'était un bouton vert, hein, faut que je t'explique ça.
C'est ça. Ouais, mais je suis pas sûr que ça aurait bien passé. En tout cas, tout ça pour dire qu'évidemment, il s'est rien passé, mais j'ai effectivement fait le saut. Je ne m'attendais pas à cette surpuissance-là aussi rapidement. Écoutez, c'est un véhicule qui fait le 0-100 en bas de 4 secondes ou à peu près. Wow. C'est complètement fou. Ouais. C'est évidemment un véhicule de niche. C'est un véhicule qui se vendra pas en très grande quantité. Écoutez, il était quand même 81 000 $. Puis oubliez les aides financières à ce niveau-là. Mm-hmm. Évidemment, il n'y en a pas. Ouais. Alors que si vous allez vous acheter une V6 traditionnelle, vous l'avez pour 50, 55 000 $. Donc, évidemment, on est vraiment dans un marché très niche. Ça me permet de vous souligner que j'ai discuté avec le président de Hyundai Canada. Vous allez dire pourquoi? Le lien, ben évidemment, vous savez que les deux compagnies sont des compagnies sœurs et qui développent des modèles à peu près similaires. Et ma question a été, pourquoi vous faites des modèles aussi puissants? Parce que, à ma connaissance, quand moi, j'ai des questions sur les voitures électriques, les gens me demandent pas à quelle vitesse ils vont. Ils me demandent à quelle distance ils peuvent aller.
C'est ça.
Mais rarement à quelle vitesse ils vont. Et lui, il dit, ben, écoutez, ça coûte à peu près rien à développer dans le sens où on a déjà toute la technologie. Il y a un marché de niche d'enthousiastes qui veulent ça. On va leur offrir. Clairement, c'est pas là qu'ils veulent aller au niveau du volume.
Okay.
Mais c'est un peu comme quand GM fait des Corvettes ultra sophistiquées et ultra raffinées qui vont en vendre 8 au Canada, mais c'est pour montrer qu'ils sont capables de le faire finalement.
Okay. Ça serait quels les autres véhicules que tu as essayés qui ont retenu justement ton attention?
Ben, écoutez, on parle du Subaru Solterra, c'en est un bel exemple.
Oui.
C'est le frère jumeau ou presque jumeau du BZ4X de Toyota, moins le nom de soucoupe volante. Là.
C'est ça.
Par contre, il y a à peu près la même... Bon, c'est la même motorisation, c'est la même façon de faire. La philosophie, elle est différente du côté du Subaru-Toyota, c'est-à-dire que on arrive... Bon, oui, c'est un véhicule 4 roues motrices, parce que c'est un Subaru, c'est traditionnel. Véhicule qui est particulier, un petit peu plus haut sur pattes, parce qu'on veut donner la personnalité Subaru, avec des protecteurs d'arches de roue, parce qu'on dit on va sortir hors route. Je pense pas que personne doit faire ça qu'un véhicule électrique, mais bon, ça vient avec la personnalité. En revanche, la différence, elle provient au niveau de la vitesse de recharge, justement, puis de la capacité de la batterie. Parce qu'on parle d'une autonomie maximale de 360 km, ce qui est bien en deçà de la moyenne des autres, et une vitesse de recharge qui est beaucoup moins rapide. La raison de ça, c'est que Toyota Subaru, ce qu'ils disent, c'est que eux misent sur la durabilité plutôt que sur l'efficacité. Alors, ils disent, votre batterie, dans 10 ans, va encore être à 90% de ses capacités. Les autres batteries, dans 10 ans, vont être à 60% de leur capacité.
Oh, OK.
Donc, vous allez pouvoir avoir la voiture plus longtemps. Ceci étant dit, ma grande question est toujours la même. Quand je suis planté debout devant une borne, est-ce que je veux savoir si je vais être là dans 10 ans ou si je vais être à mon rendez-vous dans une heure?
Bien expliqué.
Alors, c'est donc une question de choix et de philosophie. Par contre, le véhicule est d'une grande douceur. Il est agréable à conduire. Petit défaut, parce qu'évidemment, je ne mesure pas 6 pieds. Le volant, on a placé une espèce de d'écran. Au lieu d'avoir des cadrans, là, on a un écran. Ouais. On l'a mis à mi-chemin entre l'affichage tête haute et le tableau de bord traditionnel, ce qui fait que la moitié du volant cache la moitié de l'écran quand on a ma taille. Mon fils qui l'a essayé à 6 pieds 3, il n'y a pas ce problème-là. Malheureusement, du haut de mes 5 pieds 7, ça a été un peu plus compliqué.
Tu parlais tantôt de Hyundai qui vient de sortir un nouveau modèle.
Oui. La Ioniq 6, qui, encore une fois, partage la même plateforme, la EGMP.
Okay.
La différence, en fait, avec la Ioniq 5, c'est on a exactement la même mécanique, encore une fois. On utilise même mécanique, même moteur, même batterie. Je pourrais vous répéter tout ce que je vous ai dit sur la EV6 tout à l'heure, c'est la même chose. La différence, c'est qu'on a joué avec le design. Et ça, c'est exceptionnel. Imaginez-vous qu'on a pris cette voiture-là, on l'a tellement dessinée, peaufinée et joué avec l'aérodynamisme qu'on était capable de gagner 100 km d'autonomie.
Wow!
C'est spectaculaire. Ça, oui. Ça a le même coefficient de friction, 0.22, qu'une Porsche 911, par exemple. Ouais, c'est fascinant. Et si vous regardez la forme de la voiture, la partie arrière, écoutez, le design, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas.
C'est
là. La partie arrière, ça s'appelle le boat tail, donc évidemment la queue de bateau. C'est vraiment fait pour fendre l'air et éviter toutes les turbulences à l'arrière. Toutes sortes de détails. L'aileron arrière est formé comme une aile d'avion avec des petites ailettes au bout pour corriger comme des avions furtifs le font. Il y a des éléments aérodynamiques partout. Et vraiment dans les moindres détails, il y a des endroits où on dirait que les joints de carrosserie sont trop écartés, mais en fait, c'est volontaire, ça sert d'élément pour faire glisser l'air. Alors, tout est pensé sur ce véhicule-là, ce qui fait qu'avec le véhicule deux roues motrices, c'est 581 km d'autonomie.
Comment ça
et vient de remporter le titre numéro un dans leur catégorie comme étant la voiture la plus éco-énergétique au Canada dans leur catégorie. Évidemment, pour le reste, ça demeure une voiture. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une berline. Elle est disponible en rouage intégral. Beaucoup de technologies à bord, dont un système d'aide à la conduite là, qui fait que bon, la voiture se dirige d'elle-même quand vous êtes en une ligne droite. Si vous clignotez, vous mettez les mains sur le volant, vous n'avez pas obligé de conduire, elle va détecter quand il y aura de la place et elle va changer d'elle-même de voie. Mais vous devez avoir les mains sur le volant. Donc, elle ne le fait pas toute seule. Évidemment, tout le reste est là aussi, là, système d'infodivertissement et tout ce qui vient avec. C'est vraiment un véhicule intéressant, un véhicule très spacieux parce que l'empattement est grand. Mais encore une fois, du haut de mes 5 pieds 7, j'ai pas eu de problème. Mais encore une fois, j'avais amené mon fils avec moi faire l'essai à Vancouver de ce véhicule-là. Et lui, du haut de ses 6 pieds 3, assis à l'arrière, il pouvait pas se mettre droit parce qu'il avait la tête à côté au plafond, étant donné que l'aérodynamisme, en fait, qu'on a penché beaucoup le toit vers l'arrière. Lui, malheureusement, avait énormément de place pour les jambes, mais devait avoir le cou un peu penché vers l'avant pour être confortable.
C'est bon pour des enfants, là, mettons.
Oh non, c'est bon pour des gros enfants. Là, moi, je rentre très bien. je vous dirais qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment, là, je vous dirais, les gens... Oh, mon fils fait 6 pieds 3. Là, on n'est pas dans la moyenne. Là.
Non.
Donc, c'est mon test. Quand il chiale trop en arrière, je sais qu'il y a un défaut. Mais... c'est pas vraiment dans la moyenne.
OK. Et rapidement, en terminant, oui. C'est le printemps, on se prépare à l'été. Qu'est-ce qu'on doit faire à notre véhicule pour qu'il passe l'été comme il faut?
Ben évidemment, la première chose, c'est de faire un changement d'huile. Que vous ayez ou pas utilisé votre voiture cet hiver, faites un changement d'huile.
Okay.
Parce que l'huile, ça pourrit quand ça bouge pas. C'est aussi plate que ça.
Hein?
Première chose. Deuxième chose, assurez-vous... Ce que je vais dire, ça peut sembler niaiseux, lavez-la comme il faut.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a beaucoup d'impuretés qui se sont accumulées sur votre carrosserie au cours de l'hiver et vous risquez d'encourager la corrosion. Donc, faites-la laver même par des professionnels.
Oui.
C'est une excellente chose. Même chose pour l'intérieur. Au niveau mécanique, vous supervisez tous les fluides, liquide lave-glace, mais liquide de transmission et tous les autres liquides. Et bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas anodin, faites vérifier vos freins. Les étriers, oui. Les disques et les plaquettes de frein, parce que, bien entendu, c'est avec ça que vous allez avoir plus de misère. Et un dernier petit coup d'œil à la batterie, parce que souvent, les batteries souffrent en hiver. Donc, c'est intéressant d'avoir une batterie qui est en bon état pour l'été. Et la dernière affaire que personne, mais absolument personne ne fait, et pourtant, c'est une bonne chose, changer les lames d'essuie-glace. Parce que vos essuie-glaces ont gratté de la glace tout l'hiver.
Mm-hmm.
Et là, vous allez chialer au mois de juin quand vous allez partir et qu'il va pleuvoir en disant « Ouais, mais là, je vois plus rien.
C'est ça.
Système qui fonctionne pas.
Uh-huh. »
C'est pas le système. Ce sont les lames d'essuie-glace que vous avez mal entretenues, tout simplement.
De justicieux conseils de la part du Godchar lui-même, mesdames, messieurs, Marc Bouchard. On visite son site web marcbouchard.ca. On va retrouver là les essais, les conseils, les chroniques et le fameux balado, évidemment.
Ouais, balado que je fais justement avec mon fils, qui n'a rien d'un Godchar. Entre vous et moi, là, c'est un étudiant en grec ancien à la maîtrise. Alors, ça donne des discussions particulières, mais c'est très agréable. C'est sur toutes les plateformes et on s'amuse beaucoup.
Marc Bouchard, merci beaucoup puis à une prochaine.
Merci, Marc.
Merci, au revoir.
Cette émission peut contenir des infos.
Moi, je vous parle aujourd'hui de quelque chose qui risque de vous surprendre.
Mm-hmm.
Alors, après les pailles en carton pour remplacer les pailles en plastique,
oui.
Évidemment, les brosses à dents compostables. Tu savais qu'il, oui. qu'il existait des brosses à dents compostables. Alors, la plus récente innovation dans les produits qu'on va dire éco-responsables...
J'ai peur.
Oubliez les traditionnelles toilettes en céramique. Voici... La toilette en bois.
Oh non.
Ah non, c'est vrai, là, c'est
ah non,
sérieux.
Mais une écharpe, ça fait mal, là.
Eh bien, fait pareil.
OK.
Non, t'apprendras pas d'écharpe là-dessus.
OK, non, c'est non. correct.
Du siège jusqu'à la cuvette,
oui.
tout est fait en bois.
En bois.
Ben, en bois. Entendons-nous, là. Je vais vous expliquer un petit peu, OK. Alors, c'est une toilette, en fait, en bois composite qui a été créée par une société finlandaise qui s'appelle Woodio.
OK.
Woodio,
oui.
Il y a comme de la suite là-dedans.
C'est ça.
Pour sa fabrication, on estime que cette toilette-là générerait 99 % moins d'émissions polluantes que pour fabriquer une toilette standard en céramique.
OK.
Alors, la toilette s'appelle Block, B-L-O-C-K. C'est des toilettes que il y a pas de réservoir, c'est ça la beauté de la chose. T'as déjà vu ça, on voit ça des fois quand on va dans les aéroports, dans les centres commerciaux, il y a pas de cuvette nécessairement. Ils sont fixés à plein mur, donc pas de réservoir. Et c'est probablement pour ça, comme je le disais, que elles sont disons plus résistantes. Nonobstant le fait qu'ils soient en bois composite, évidemment. Qu'est-ce que le bois composite, c'est quoi d'après toi? Tu sais quoi?
Ben c'est fait à partir de bois.
C'est fait à partir de bois.
Mais on y ajoute certains éléments de la
C'est ça. Il y a au moins 80 % donc c'est quand même pas mal. Oui. 80 % est en volume de bois et on utilise notamment dans ces toilettes-là du tremble d'origine locale, puis des résidus aussi produits par l'industrie ferroviaire. Oui, ils traversent pour les chemins de fer, c'est pas pire, mais il y a du créosote un peu là-dedans.
C'était pas loin, là.
Je ne voudrais pas m'asseoir sur un travers de chemin de fer. Non. Alors, l'industrie forestière finlandaise, justement, génère des déchets de bois et tout ça. Mm-hmm. Et le bois composite, ben, c'est un matériau de bois, justement, qu'on mélange avec un composite thermoplastique et composé de résine de plastique. Donc, oui, il y a certainement des produits chimiques, là, on avoue, là. Quand même, 80 % que c'est du bois.
Ça colle ensemble, cette affaire-là.
Ils sont belles, quand même. Je peux pas vous les montrer à la radio.
Okay.
On n'est pas rendu là, mais...
Non.
Alors, on mélange des copeaux de bois avec une combinaison de... Dans ce cas-ci, parce que les composites sont pas toujours les mêmes, là, mais dans ce cas-ci, c'est du polyester et des résines bioplastiques et on crée cette espèce de composite étanche. Étanche, évidemment.
Ben,
il va avoir des affaires là-dedans. J'espère. Qu'il y a de l'eau puis d'autres choses.
Ça commence à pourrir du bas, là.
Et c'est pratiquement incassable, hein. D'habitude, la sciure de bois et les copeaux de bois sont utilisés pour mettre au fond des toilettes sèches.
Ah oui.
On fait
absolument.
Ça hein, dans les campings, par exemple, ou dans les halles routières, les trucs du genre. Mais là, ils sont comme passés à l'autre étape, eux autres. Ils ont dit non, on mettra pas les copeaux dans le fond.
Oui, on va la faire.
On va la faire
carrément en bois.
En guillemets. Où retrouve-t-on le bois composite? Des planches de patio, entre autres.
Oui.
Tu sais, pour vous faire une image, là, pour que vous sachiez un peu. Alors, pas souvent, mais de plus en plus, on utilise ça parce que c'est imputrescible. Enfin, ça dure tellement, tellement longtemps.
Exactement. Alors, pas besoin de vernir.
Exact. Puis, il y a souvent un choix de coloris qui est très, très grand.
Oui.
Alors, pour ces toilettes en bois, la production ne requiert apparemment aucune chaleur et une fraction de l'eau et de l'énergie qui serait nécessaire pour créer les toilettes habituelles, soit en céramique ou encore en porcelaine. Comme le gars, il dit, le porte-parole de la compagnie, il dit... Les toilettes en céramique en tant que telles, c'est pas ça qui pollue, là. T'sais, je veux dire, tu mets ça là, t'installes ça, puis que ce soit en composite ou en céramique, c'est pas polluant l'un que l'autre. C'est juste la production qui est énormément énergivore. La céramique industrielle est cuite à de très hautes températures, on dit jusqu'à 1500 degrés Celsius, et pendant une douzaine d'heures. Donc, as-tu pensé toute l'énergie que ça prend pour faire ça? Et ça produit énormément de CO2, évidemment. Mais les prétentions, là, ça tient pas compte. Évidemment, on dit que c'est une toilette qui est éco-responsable. Minute, là. Il faut amener les débris. Faut amener les matériaux de bois jusque-là. On mélange ça avec une espèce de...
Plus éco-responsable.
C'est plus éco-responsable qu'une toilette traditionnelle. C'est le résultat de 3 ans de recherche et de développement. Mais là, il y a un petit bémol. Tu sais, j'ai dit tantôt que tu fasses une toilette en céramique ou une toilette en composite, faut que tu amènes des matériaux, faut que tu amènes ça après ça dans les quincailleries et tout ça pour les vendre. Mais l'affaire, c'est que, en tout cas pour l'heure, là, on n'a pas trouvé encore, mais pour l'instant, c'est quasiment impossible à recycler en fin de vie.
Oh.
Et
oh, ça, c'est tannant.
Ouais, c'est un petit peu la céramique. À la rigueur, tu peux la refaire chauffer ou tu peux la casser en petits morceaux, puis tu peux la mélanger avec d'autres choses, puis la recycler entre guillemets. Mais ces toilettes-là, à cause du composite, tu peux difficilement les réutiliser. Mmh. Mais il faut dire que quand même, dans les bonnes conditions, elles peuvent vivre jusqu'à 50 ans.
Ouais, c'est ça l'affaire, là.
Elle va vivre jusqu'à 50 ans. C'est quand même pas pire.
Ouais.
Alors, voilà, si jamais ça vous tente d'être un petit peu plus éco-responsable puis vous donner bonne conscience, ben cherchez des toilettes en bois composite. Vous aurez la table à pique-nique dans la cour en arrière, en bois composite, la terrasse. Puis là, tu diras au beau-frère, tu dis... Ouais. T'as-tu envie de faire le numéro 2? j'ai le prolongement de tout mon kit en composite dans ma toilette, dans ma salle de bain. Tu vois l'image un peu?
Non, je veux pas voir l'image. Je veux juste pas voir l'image.
OK.
Bon, question de terminer l'émission en beauté. Question aussi de prendre ma revanche. Voyons, qu'est-ce que je dis là?
C'est pas une question. Sois pas revanche.
Non, absolument pas. Non, je voulais plus souligner ton excellente performance lors de notre dernier quiz. Alors, je me suis dit que pour le souligner de belle façon, on est dû pour en avoir un autre. Et aujourd'hui, mon cher, je t'offre le monde du sport.
Ah, là, par exemple, tu risques de me coincer. C'est fait, effectivement. On a chacun nos forces.
Oui, exactement.
La connaissance générale, c'est pas pire. Le sport, pas mal.
Commençons par le basketball.
OK.
Qui est inventé par...
Un Canadien.
Oui,
absolument.
Quel est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA? Je vais te donner trois choix.
Okay.
Kareem Abdul-Jabbar.
Ah.
Michael Jordan. LeBron James.
Voilà, étant donné ces choix de réponse-là, je dirais LeBron James, probablement. C'est ça? Ça commence bien, mon affaire.
Il est devenu le 7 février dernier le meilleur marqueur avec 38 450 points.
Quand même.
Il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar. Michael Jordan, lui, vient au cinquième rang avec 32 292 points en carrière. Quel athlète a remporté le plus de médailles olympiques? Larissa Latinina, Michael Phelps, Usain Bolt.
Michael Phelps, le nageur. Es-tu là?
Il demeure l'athlète le plus titré avec 28 médailles. Moi, je te dis, c'est le dernier quiz qu'on fait.
Désolé.
Larissa, elle était en gymnastique artistique, elle en a remporté 18.
Ah, juste ça.
Et Usain, en athlétisme, en a 8. Quand même pas pire. Combien de circuits a frappé le receveur Gary Carter, le numéro 8, qui a joué pour les Expos, les Mets et les Giants, les Dodgers? 421, 298, 324.
Je dirais 324, entre les deux. Là, j'ai pris un guess, par exemple, j'avoue que j'ai pris un guess. Phelps, je le savais. LeBron James, plus ou moins.
Ben, on en a entendu parler,
tout ça. Par exemple, dans le...
Mais effectivement, Carter, c'était 324 circuits avec les Expos, les Mets, les Giants, les Dodgers. Sa carrière a débuté en 1974 et s'est terminée en 1992.
Avec le numéro 8 à part de ça.
Avec le numéro 8.
Ça, je peux te le dire.
Quel athlète a remporté le plus de victoires en ski alpin?
Ouais.
Ingemar Stenmark. Mikhaila Shiffrin. Ou Marcel Hirscher.
J'ai vraiment, vraiment, vraiment aucune idée. Même les noms, là, ça me sonne même pas une cloche. Je vais dire le dernier, là, le troisième.
Marcel Hirscher.
Bon, OK.
L'Américaine Mikhaila Shiffrin a dépassé Stenmark cette année, là.
Ah, OK.
Elle a remporté sa 87e victoire et sa 88e par la suite. Stenmark en a 86. Nancy Greene, la meilleure Canadienne. 13 victoires en Coupe du Monde. Quelle équipe a remporté 4 Super Bowls dans les années 70? Je sais que c'est ton sport favori.
Oui, absolument.
T'écoutes ça tous les dimanches religieusement.
Ça va faire.
Les Cowboys de Dallas, Les Packers de Green Bay, les Steelers de Pittsburgh.
Je vais y aller avec les Steelers de Pittsburgh, mettons.
Oui, mes Steelers. Oui,
ben
oui.
C'est pour ça que j'allais dire ça. J'ai dit c'est ton équipe.
Je savais qu'en faisant ça,
il l'a pas inséré là pour rien. Hein?
Ah oui, je sais, je vis dans le passé un petit peu. Ils ont remporté les Super Bowls 9, 10, 13 et 14. Ils étaient menés à l'époque par Chuck Noll, leur entraîneur, joueur Minjo Green, Terry Bradshaw, Frank Harris, Lynn Swann, Elsie Greenwood, Mel Blount, ainsi de suite. Maintenant.
Oui.
Quel est le record de mangeurs de hot dog?
Ben là, tu dépasses le sport pas mal, là.
Non, c'est un sport.
OK.
Ça va devenir une discipline olympique.
Ça va pas vraiment me réconcilier avec les Jeux olympiques. Non, mais ça. Je regarde pas partout ou à peu près. Fait que...
76, 78 ou 80?
78.
Joey Chestnut engloutit 76 chien chaud en 10 minutes, en 2021.
C'est fort. Ben, c'est fort.
Ah non, mais pense-y, là. 76 roteux en 10 minutes.
Je dis c'est fort, mais j'hésite entre fort pis cave, excusez, là.
Et là, on va terminer avec une autre très belle question. Quel est le joueur de mini-pot?
Serge Lemaing, sinon. C'est pas
qui a remporté le plus de victoires consécutives au petit écran. Jocelyn Noël, le grand Carl Carmoni.
Oui, monsieur.
Ou Gilles de Champ Bussière.
Moi, je dirais Carl Carmoni.
Non, c'est Jocelyn Noël.
Oh.
Il a remporté 7 victoires consécutives dans les années 80. Et qui était l'animateur de la fameuse émission de Minipot.
C'est ça que j'ai dit tantôt, Serge Lemaing.
Serge Lemaing, mon ami Serge Lemaing, que j'ai connu à l'époque.
Ah, la porte dans l'arrière!
C'est du mini-pot, mais il rendait ça tellement excitant.
C'est vrai.
Il était incroyable, Serge Lemaing.
Et c'est la conclusion.
C'est un bon gars en plus. Oui, c'était un très bon gars.
OK. Oui. Ben merci beaucoup. Merci François.
Oui, ben félicitations encore. Seulement deux questions que t'as manqué. C'est quand même pas pire.
Quand même pas si pire.
Dans le monde du sport en plus.
En plus.
Ben oui. Attends, je vais te trouver quelque chose
un petit peu plus difficile. Arrête, t'es en train de te faire honte à toi-même. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition.
Bonne semaine.